Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Nous poursuivons donc notre série Quoi de neuf sur Napoléon avec Patricia Sorel, spécialiste de l'histoire du livre et de l'édition. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et vous avez publié l'année dernière un ouvrage qui décortique les rouages de la censure sous le Consulat et le Premier Empire, un sujet longtemps délaissé par les chercheurs. Ils ont en effet beaucoup travaillé sur le contrôle de la presse durant les 15 premières années du 19e siècle, mais beaucoup moins sur la politique du livre. Peut-être pour commencer, dans l'esprit de Napoléon, quelle est la place du livre? Est-ce que le livre a un rôle à jouer dans une grande propagande au service des visées impériales?
Oui, tout à fait. La censure mise en place sous Napoléon Ier est révélatrice non seulement de l'autoritarisme du régime impérial, mais aussi de son idéologie. Et le contrôle des livres, comme le contrôle de la presse, est un instrument essentiel du système de propagande napoléonien.
Alors concrètement, comment fonctionne cette censure?
Alors, elle va se mettre en place en plusieurs étapes. Sous le consulat, c'est la police qui contrôle, qui empêche les impressions, qui saisit les livres publiés dans les imprimeries et les librairies, et ceci en l'absence de toute disposition législative. Alors, en 1803, un système de censure préalable est mis en place avec la création au ministère de la police d'un bureau des journaux, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, et ce bureau des journaux était chargé d'examiner tout ouvrage avant publication. Et donc, en se soumettant à la censure, un éditeur se préservait ainsi d'une saisie arbitraire, mais risquait une interdiction de publication. Donc la censure, là, s'effectue donc avant publication. Et l'autre étape importante, c'est qu'en 1808, eh bien, Napoléon saisit le Conseil d'État d'un projet de réforme de la librairie. En effet, il a conscience qu'il faut mieux organiser la censure afin notamment de répondre aux protestations des imprimeurs et des libraires contre la toute-puissance du bureau de la presse. Et c'est ainsi que, eh bien, la censure va véritablement être organisée par le décret signé au Palais des Tuileries le 5 février 1810. C'est un décret qui est très important puisqu'il réglemente les métiers du livre et qui légalise la censure qui est confiée non plus au ministère de la police mais au ministère de l'Intérieur.
Et quel type d'ouvrages sont visés par cette censure?
Donc la censure, donc comme je le disais, dépend désormais de l'intérieur. Et en fait, c'est un directeur général de la librairie qui est nommé. C'est lui le responsable de la censure. Et ce directeur de la librairie a sous ses ordres une équipe de censeurs. Alors, le nombre de censeurs a évolué, hein. Ils sont d'abord 8 en 1810. Ils seront 18 en 1812, 20 en 1813. Et ces censeurs sont spécialisés, hein, et donc leur spécialité couvre plusieurs genres. Certains censeurs sont spécialisés en belles-lettres, d'autres en histoire, d'autres en philologie, d'autres en jurisprudence, d'autres en théologie, en politique extérieure, etc. Et en fait, on constate que la censure exercée par ce bureau de la librairie, comme on l'appelle, donc le bureau de la librairie qui regroupe les censeurs, ne diverge guère de celle qui avait été exercée par le bureau de la presse ou le consulat. Et donc, en fait, les livres pourchassés par la police de Fouché, sont les mêmes qui vont être à leur tour pourchassés par les censeurs du bureau de la librairie. C'est-à-dire que les livres qui portent atteinte aux bonnes mœurs restent proscrits. Par exemple, les romans du Marquis de Sade. Par exemple, les romans de Pigault Lebrun. Les censeurs impériaux ont également en ligne de mire les ouvrages qui invoquent la Révolution ou les malheurs subis par la famille royale, ceci afin de ne pas réveiller des passions mal éteintes et d'éradiquer ce qu'on appelait l'esprit de parti. Interdit également les écrits qui font allusion aux affaires ecclésiastiques ou à certains faits de l'actualité, tout comme ceux qui critiquent le régime napoléonien et ses institutions, ou qui font un éloge trop prononcé de la liberté. Et de façon plus anecdotique, hein, les censeurs impériaux se sont en outre érigés en juges de la littérature française et on les voit n'accorder qu'à regret, voire parfois refuser le droit de publication à tel ouvrage au style jugé trop lourd, à telle ode au vers jugé insipide.
Et quelle sera la postérité de ce système de censure qui finalement va disparaître avec l'Empire ?
Oui, parce que en fait, Napoléon n'aura de cesse de manifester son mécontentement vis-à-vis du fonctionnement de la censure. Hein. Il aurait voulu un plus grand discernement de la part des censeurs. Et finalement, comme vous l'avez dit, la censure sera abolie par Napoléon lors des 100 jours, hein, plus précisément donc par l'acte additionnel donc du 22 avril 1815. Et donc Napoléon donc abolit la censure préalable après avoir consulté Benjamin Constant d'ailleurs et lui avoir avoué que étouffer la liberté de la presse était absurde. Hein, c'est le mot qu'il utilise, absurde.
Eh bien, un grand merci Patricia Sorel de nous avoir expliqué cet épisode de l'histoire du livre. Je rappelle le titre de votre publication, Napoléon et le livre, la censure sous le consulat et l'Empire, et c'est aux presses universitaires de Rennes, c'est paru l'année dernière, en 2020. À bientôt.
Merci, au revoir.